Badania europejskie.
Rozumią tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Schengen est une petite ville luxembourgeoise qui a donné son nom il y a 30 ans à un espace de libre circulation des individus en Europe. Au total, 26 pays adhèrent à l'espace Schengen et 420 millions d'Européens peuvent ainsi voyager sans passeport de Lisbonne à Tallinn pour prendre deux points extrêmes de l'Union Européenne. Avec le marché unique, l'euro ou Erasmus, Schengen est l'un des symboles forts de la construction européenne. Mais avec les drames méditerranéens de la migration, les menaces terroristes, certains politiques en France, mais pas seulement, veulent remettre en cause cet espace de libre circulation. Alors, 30 ans après, quel avenir pour Schengen? Antonio Vitorino, bonjour, bon dia.
Bon dia.
Vous êtes portugais, ancien commissaire européen et président de l'Institut Jacques Delors. Vous avez été ministre dans votre pays avec une sensibilité socialiste, c'est ce qu'on peut dire.
Et plus général, hein, on a aussi des libéraux.
Et vous avez aussi des libéraux. Ettore Ricci, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Paris. Vous venez de publier en anglais, malheureusement, Mobile Europe. En deux mots, Mobile Europe, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre qui n'est pas encore traduit en français?
On trouve une histoire de la libre circulation en Europe et on trouve des statistiques sur la diffusion de la libre circulation et aussi des points de vue des citoyens qui ont profité de l'espace ouvert de Schengen.
Et par ailleurs, vous êtes italien. On devrait être rejoint d'une minute à l'autre par Pierre Lelouch qui a quelques petits problèmes mais qui devrait nous rejoindre dans un instant. Pierre Lelouch, ancien député MP, aujourd'hui député Les Républicains et qui a été par ailleurs ministre des affaires européennes. Alors avant de rentrer dans le vif de notre débat, petit rappel, l'espace Schengen en moins de 3 minutes avec vous Maria Afonso.
Les accords de Schengen, c'est la disparition des contrôles frontaliers internes de l'Union européenne. 22 États membres sur 28 en font partie. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. La Bulgarie, la Roumanie, tout comme Chypre et la Croatie, n'y adhèrent pas encore. Mais par contre, la Suisse, le Liechtenstein, mais aussi la Norvège et l'Islande, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, sont dans l'espace Schengen. Au total, 26 pays en sont membres. Alors concrètement, depuis 1995 par exemple, un Français qui se rend en Belgique ou en Espagne ne présente pas sa carte d'identité à la frontière franco-belge ou franco-espagnole. S'il voyage en voiture, il n'est pas arrêté au poste de douane. D'où cette notion de libre circulation des individus. Mais pour en arriver là, il a fallu renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen en créant tout d'abord un visa commun dit visa Schengen. Ainsi, un citoyen russe peut se rendre indifféremment à un consulat allemand ou français, ce qui lui donnera la possibilité de voyager dans les 26 pays de l'espace Schengen. Ensuite, un outil, le système d'information Schengen, le SIS. C'est une base de données informatique alimentée et partagée par les États participants aux accords de Schengen. Il permet aux policiers, gendarmes, douaniers, autorités judiciaires de disposer en temps réel d'informations qui peuvent soit concerner des individus, comme les personnes disparues ou recherchées, et les étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire. Ou des objets, comme des véhicules volés, armes dérobées, faux billets, documents détournés ou égarés. Et donc la police d'un pays peut participer à l'arrestation de criminels d'un autre pays ou retrouver des objets volés. Pourtant, selon l'Irlandais Hugo Bradet, chargé de recherche au Center for European Reform, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Londres, il y a des failles de sécurité.
Dans les 10-15 ans à venir, il va falloir colmater les brèches de sécurité engendrées par la liberté de mouvement. Il y a des progrès entre la police et les gardes frontaliers. Il y a des initiatives de l'Union européenne et entre les pays frontaliers. Il faut colmater les brèches, c'est important.
Un État membre de l'espace Schengen peut rétablir ses frontières pour des circonstances exceptionnelles et 24 mois au maximum. Et cela pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Ce fut le cas en France en 1995, après les menaces terroristes et après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Mais ce n'est qu'une exception. Restaurer les contrôles nationaux et donc suspendre l'espace Schengen n'est pas une solution sur le long terme, d'après le politologue allemand Haciem El-Difraoui. même face à la menace terroriste d'inspiration djihadiste.
Suspendre l'accord de Schengen, évidemment, il ne le faut surtout pas. Les services de sécurité européens doivent coopérer beaucoup plus intensément. Mais la lutte contre le djihadisme est surtout l'affaire de mesures de long terme, en expliquant à ces jeunes qui vivent en marge de la société que le djihadisme n'est pas la solution et que cela n'a rien à voir avec l'islam. Mais ce sera un processus de très long terme qui occupera l'Europe pendant des décennies.
Alors, Antonio Vitorino, on va laisser de côté les rapports entre le djihadisme et Schengen, mais est-ce qu'on peut dire que l'espace Schengen, c'est un élément majeur de la construction européenne ?
Oui, du point de vue politique et du point de vue symbolique, les choses vont de pair. Je crois que c'est instrumental d'une des quatre libertés essentielles, qui est d'ailleurs la plus populaire dans le citoyen européen, c'est la liberté de circulation des personnes. Et c'est aussi important du point de vue politique parce que elle exprime la confiance mutuelle qu'il doit avoir entre les États membres pour gérer ensemble un espace sans frontières intérieures, tout en prenant la responsabilité chacun d'entre eux d'être responsable pour le contrôle de la partie de la frontière extérieure qui est sous sa direction directe.
Et toi, Ricci, il n'y a pas d'exemple ailleurs dans le monde où 26 pays ont choisi d'abolir leurs frontières pour les citoyens et pour qu'ils puissent aller d'un point à un autre sans montrer leur passeport en toute liberté.
Pas avec cette envergure, c'est une chose vraiment unique, c'est une image d'un monde sans frontières et cosmopolite. Il y a des accords, mais c'est pas imaginable dans l'Amérique du Nord, dans le cas du NAFTA, d'avoir une libre circulation entre le Mexique et les États-Unis. Tout au contraire, même s'il y a une libre circulation des marchandises, un marché commun. Donc, il y a de plus que les volets économiques, comme l'a remarqué M. Vitorino.
Alors, des accords signés en 1985 qui ont été mis en place en 1995. Il a fallu 10 ans pour mettre en place cet accord. Ça a été très compliqué, Ettore Ricci.
C'était très compliqué, c'était progressif, ça marchait pas après pas, un peu comme toute la construction européenne. C'est un projet incrémentaliste, comme on dit, de succession, de développement peu à peu.
Pierre Lelouch vient de nous rejoindre. Alors, rebonjour Pierre Lelouch. Bonjour. Il y a quelques semaines encore, vous étiez un député MP, vous êtes un député Les Républicains. Avant, vous occupiez des affaires international à l'UMP, depuis que c'est les Républicains, des affaires internationales. Et par ailleurs, vous avez été ministre des Affaires européennes il y a quelques années. Alors, avec Antonio Vitorino et Ettore Ricci, on s'interrogeait si Schengen n'était pas un des fondements essentiels de la construction européenne, votre point de vue.
Je pense que c'était une belle idée au moment où il a été conçu, il y a une trentaine d'années. Il était dans la logique d'un marché intérieur et d'une libre circulation à l'intérieur de l'Union. Je crois qu'il est aujourd'hui totalement dépassé par la réalité géopolitique du monde et la réalité démographique du monde, pourtant prévisible il y a longtemps. J'avais publié il y a 25 ans, au moment de la chute du mur de Berlin, un livre d'ailleurs primé à l'époque sur le Nouveau Monde, et où je mettais en exergue l'importance des facteurs démographiques. En démographie, on sait deux générations à l'avance, à peu près 40 ans à l'avance, quelle sera la nature des grands rapports de force de population dans le monde. Donc, il y a 30 ans, on savait que, par exemple, l'Afrique allait doubler de population en face de nous, à 14 kilomètres des côtes européennes. Mais on n'a pas regardé. On a fait un accord qui était un accord sympathique où les Européens, c'est comme ça qu'on l'avait vendu d'ailleurs, les Européens allaient pouvoir franchir les frontières sans présenter leur passeport. C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est très sympathique. Simplement, le corollaire de cet accord de Schengen, c'est que on donne les clés de votre maison à l'État d'à côté, qui, lui, est censé contrôler la frontière extérieure, quand il est extérieur. Par exemple, dans le cas de l'Italie, l'Italie tient la clé de la France pour tous les gens qui transitent par l'Italie, ou l'Espagne, qui viennent du Sud. Idem pour la Grèce, qui est une autre porte d'entrée majeure aujourd'hui du phénomène migratoire. On a fait rentrer assez tardivement la Grèce dans Schengen, il y a 15 ans, en 2000. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, de même que la Grèce ne contrôle absolument pas ses dépenses publiques et sa monnaie, ses comptes, de même, elle ne contrôle absolument pas ses frontières. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, devant cette montée des flux migratoires, qui n'est pas que due à la guerre en Syrie, Le gros de la population qui arrive, ce sont des réfugiés économiques qui viennent de la surpopulation dans un continent, en Afrique, où malheureusement il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc ce sont ces jeunes-là qui arrivent en ce moment en Europe, qui commencent à arriver, parce que le phénomène il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Et ça pose un immense problème pour la cohésion du système, puisque les pays les plus exposés, c'est les pays du Sud et la Grèce, voient déferler des centaines de milliers de personnes. On est déjà à 100 000 sur l'Italie, 100 000 en Grèce, et ce n'est que même pas la moitié de l'année.
Alors on va voir comment...
Il va falloir se demander si cet accord est encore tenable. Personnellement, et c'est la position de ma famille politique, d'ailleurs nous y travaillons, puisque nous allons faire une convention sur l'immigration avant l'été, nous allons mettre sur la table des propositions assez fortes dans ce domaine. Moi, je vous donne ma conviction comme ancien ministre des Affaires européennes, pour avoir vu les choses, aussi bien en Italie, avec nos voisins italiens, qu'en Grèce, à l'époque, que la belle idée de Schengen, devant les grands mouvements migratoires qui se préparent, ne pourra pas tenir. Et donc, il faudra reprendre le traité de façon assez fondamentale.
Alors, avant de voir s'il faut reprendre ce traité et comment, Juliette Le Ken a promené son micro dans les rues de Paris pour savoir ce que le mot Schengen évoquait auprès des Français.
À l'Europe, on peut penser à la libre circulation des gens et des personnes au sein de l'UE.
Un espace de plusieurs pays où les frontières sont à l'extérieur des États.
Un truc vieux, ancien, dont je connais pas du tout le périmètre. J'ai pas du tout idée de quels sont les pays qui font partie de l'espace Schengen.
L'espace de libre circulation des personnes ?
L'espace Schengen, pour moi, c'est en fait l'ensemble des pays européens, peut-être même d'autres pays autour, qui ont accepté que les habitants de leur pays puissent circuler d'un pays à l'autre sans frontières.
Eh ben, je suis plutôt pour, hein, parce qu'on est dans une période, je pense, où la mobilité est de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut encourager cette circulation.
Ça paraît normal que qu'en Europe, on puisse circuler dans n'importe quel pays. Après, je veux bien que quand on y va pour y vivre, ça pose des contraintes et que ça soit plus légiféré. Mais sur la circulation, ça paraît normal.
Plutôt pour, puisque ça évoque la liberté de l'être humain à se déplacer.
Par exemple, quand on voyage, c'est très facile de passer d'un pays à un autre. Il n'y a pas d'attente énorme aux frontières. Ça facilite les choses.
Le problème en Europe et dans l'espace Schengen, c'est qu'il n'y a aucun contrôle maintenant d'un flux migratoire qui devient, vous avez vu, avec les bateaux qui viennent de Libye maintenant, c'était 4000 il y a 3 ans. Aujourd'hui, on apprend que dans une semaine, c'est 11 000 migrants qui sont arrivés. Le week-end suivant, c'est 4 000. Donc je pense qu'en effet, il va falloir un peu se poser certaines questions.
Alors Antonio Vitorino, on l'a bien compris, le problème, c'est les migrants illégaux qui circulent dans l'espace Schengen. Mais pour autant, est-ce qu'on peut revenir si facilement que ça sur un accord signé par 26 pays il y a 30 ans ?
Dans mon avis, bien sûr, on ne peut pas nier qu'il y a des fragilités dans le système. Et donc, il y a des maillons faibles dans la chaîne des contrôles. Et dû à l'interdépendance des États membres les uns des autres, il faut être très attentif à ces points de vulnérabilité. Mais je ne partage pas l'avis que ce soit le rétablissement des contrôles des frontières nationales, surtout des contrôles aux frontières internes, qui soit la bonne réponse. On a déployé de la solidarité vis-à-vis de la Grèce, quand la Grèce a démontré qu'elle était incapable de faire le contrôle de leurs frontières. Et à présent, maintenant, les flux migratoires qui arrivent en Italie et en Grèce, ce sont des flux très importants, mais je ne trouve pas là une défaillance du système de Schengen. Par contre, je trouve là le besoin de déployer de nouveaux instruments de solidarité et de répondre à cette situation d'urgence. C'est une situation tout à fait extraordinaire qui ne justifie pas, dans mon avis personnel, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. On serait en train de faire payer le prix aux citoyens européens des problèmes qui viennent de dehors de l'espace européen.
Et toi, Ricci, est-ce que si l'espace Schengen n'existait pas, la circulation des migrants illégaux serait rendue beaucoup plus difficile?
C'est vrai que l'espace Schengen est un donné acquis et ça fait partie un peu du DNA
de l'ADN.
ADN des sociétés européennes maintenant. Donc, c'est faire l'idée de changer la montre de l'histoire, retourner dans une Europe faite de micro-souveraineté, ça semble plutôt absurde. Je trouve Même de qualifier Schengen comme quelque chose de sympathique, un peu une offense à l'histoire et aux valeurs profondes qu'on partage en Europe.
Pierre Leloup, je vous ai directement impliqué.
Je suis impliqué comme tous les élus, monsieur. Je veux bien que du point de vue de la Tour d'Ivoire académique, on soit du côté des bons sentiments. Moi, j'écoute ce que disent les gens. Hein. Et ce que disent les gens, c'est qu'ils n'en peuvent plus. Contrairement à ce que disait l'ancien commissaire européen, c'est pas une situation d'urgence. C'est une situation désormais de normalité. Ça va pas s'arrêter demain matin. Nous sommes en face d'un continent africain qui va doubler sa population dans les 40 années qui viennent. Beaucoup de cette immigration vient des pays les plus pauvres du monde, dans la bande sahélienne, qui double de population tous les 18 ans, vous m'entendez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune Nigérien, un jeune Malien, qu'est-ce que vous avez comme option pour trouver du travail? Quel est l'avenir? Vous avez soit, si vous avez de la chance, de rentrer à la fonction publique, si vous pouvez, soit vous êtes condamné à rester dans des territoires complètement isolés, et sinon, vous avez quoi? Vous avez les trafics, vous rejoignez un groupe terroriste du style Boko Haram, ou Al-Qaïda. Ou bien, vous essayez de passer de l'autre côté.
Alors la question, c'est quelle est la réponse des Européens?
Les flux migratoires qui sont en train d'arriver en Europe, et ça je veux vraiment le dire, c'est pas du tout un fait du hasard, c'était des choses prévisibles qui sont ici pour longtemps, qui nous interpellent. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on gère ça? Bien sûr que comme Européen, je suis attaché à la libre circulation à l'intérieur des frontières. C'est très sympathique de ne pas faire la queue.
Mais c'est aussi
sympathique de se
c'est
sentir.
Perçu aussi comme un acquis par les Européens.
Non, mais personne n'en doute. Mais en même temps, si vous regardez les sondages en France, 60% des Français veulent reprendre les accords de Schengen. Et plus de 60%. Et j'ai vu les sondages, sont quand même très clairs. Les gens sentent bien que il y a aussi un problème qui est le contrôle de ceux qui sont à l'extérieur et donc de toutes les procédures d'identification, des procédures d'asile. Et en réalité, ce qui est en train de se passer devant nous, et je le dis très calmement parce que c'est la réalité, le système Schengen est en train d'imploser entre les pays de transit et les pays de destination. Quand vous êtes un pays de transit, l'Italie est un pays de transit, on laisse rentrer les gens et même on fait bella figura, on se présente comme étant... Et c'était le but de l'opération Mare Nostrum. Le gouvernement italien voulait sauver les gens en mer. Donc on déploie la marine pour sauver les gens, ce qui est très bien. Frontex, on vient de décider récemment de multiplier par 3 le budget de Frontex. On ramasse les gens en mer. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On augmente les trafics. Tout simplement parce que si Frontex devient une opération de sauvetage en mer, les trafiquants, eux, ils vont augmenter le nombre de gens qu'ils transportent, puis ils ont la garantie d'être sauvés en mer. Ensuite, on les amène en Italie. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Normalement, si vous appliquez le traité de Schengen, l'Italie est responsable de la totalité des gens qui rentrent en Italie et ne doit pas les laisser sortir et doit traiter les demandes d'asile, puisque c'est le premier pays d'entrée qui est responsable de l'asile. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Italie ou en Grèce? Le gouvernement donne des vrais faux documents de passage. On prend les gens de Lampedusa ou de Lesbos, on les amène dans les capitales respectives, à Athènes ou à Rome. Ensuite, on les met dans les trains pour la France. Et on ne prend même pas ni les données d'asile, ni les relevés d'identité, on les envoie à l'extérieur de l'Italie, parce qu'on sait que ces gens-là vont aller soit en France, soit en Allemagne. Et on a vu une explosion des demandes d'asile en France, depuis 2 ans, et encore plus forte en Allemagne, puisqu'il y a une très forte demande pour aller travailler en Allemagne, encore plus forte qu'en France. Donc, le système est en train d'exploser entre les pays de transit et pays de destination. Les uns demandent de la solidarité, et ils ont raison, il faut que l'Europe partage. On en est maintenant à se dire, faut-il ou pas répartir de façon obligatoire par quota? Le gouvernement français a dit, on est pour, puis après ils ont dit, on est contre. Bref, ce que je constate, c'est que la machine européenne aujourd'hui n'a ni vision du problème, on continue à penser que c'est une affaire d'urgence à court terme, ça ne l'est pas, ni leadership, et on laisse la chose perdurer, et ne vous étonnez pas à l'arrivée de voir des campements sauvages sous le métro Porte de la Chapelle, ne vous étonnez pas de voir aussi, à Sangatte, puisque nous nous servons de garde-barrière aux Anglais, une véritable jungle avec des milliers de gens qui viennent s'entasser avec des violences pour essayer de passer en Grande-Bretagne.
Pierre Lelouch, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde.
Cette situation est intolérable.
Avant de retrouver nos invités juste après les infos, en essayant de se voir et de savoir comment on peut remettre en cause Schengen ou comment on peut aménager Schengen. À tout de suite.
Cruzăm în toată Europa.
Răscrucea Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Schengen est une petite ville luxembourgeoise qui a donné son nom il y a 30 ans à un espace de libre circulation des individus en Europe. Au total, 26 pays adhèrent à l'espace Schengen et 420 millions d'Européens peuvent ainsi voyager sans passeport d'un bout à l'autre de l'Europe. Avec le marché unique, l'euro ou Erasmus, Schengen est l'un des symboles forts de la construction européenne. Mais avec les drames méditerranéens de la migration, les menaces terroristes, certains hommes politiques en France, mais pas seulement, veulent remettre en cause cet espace de libre circulation. Alors, 30 ans après, quel avenir pour Schengen? Je vous représente rapidement nos invités. Antonio Vitorino, ancien commissaire européen et président de l'Institut Jacques Delors. Il est portugais. Pierre Lelouch, député LR, en charge des affaires internationales.
Député les Républicains.
Aux Républicains, j'y venais. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile de lire que ça. Et je prends le pari que bientôt on dira LR comme on a dit UMP.
On verra. Je prends le pari inverse.
On verra. Par ailleurs, vous avez été ministre des Affaires européennes. Et Ettore Ricci, professeur de sociologie à Sciences Po Paris et par ailleurs italien. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'espace Schengen? Je vais vous poser la question dès les trois. Antonio Vitorino, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui?
Écoutez, je ne nie pas la pression migratoire, les déséquilibres démographiques. Ce n'est pas là la question. Ce que je me pose, c'est comment répondre à ces problèmes du point de vue européen. Et je ne trouve pas que le rétablissement des contrôles aux frontières internes serait la bonne réponse, la réponse efficace contre les pressions migratoires. Tout au contraire, je pense que la conséquence directe d'une telle mesure serait un recul du degré de coopération policière et de contrôle des frontières extérieures qui existe déjà aujourd'hui, qui peut être amélioré, qui doit être amélioré, mais qui correspond à une réalité du monde aussi, si on parle des faits, c'est la profonde interdépendance entre les États. Et donc, les trafiquants, il faut les combattre conjointement, avec des échanges d'informations, avec des cibles bien déterminées, et c'est pour cela qu'on a créé Frontex, c'est moi qui l'ai proposé il y a 10 ans.
Alors, Frontex, en deux mots, c'est l'agence européenne qui contrôle les frontières extérieures.
Et Europol, c'est l'agence de coopération policière qui a comme objectif d'échanger des informations et cibler des opérations sur les réseaux des trafiquants et de ceux qui aident à l'immigration irrégulière. Donc, je ne vais pas me mêler dans le débat français. Je dois vous dire, j'ai une vision extérieure à ce débat. Mais de toute façon, la France a été toujours très réticente vis-à-vis Schengen. Ce n'est pas une nouveauté, de mon avis. Ce qui me paraît injuste, et même ici, voire démagogique, c'est de dire que rien n'est fait au niveau européen. Par contre, je trouve que la bonne réponse, c'est d'être plus exigeant sur ce que peut faire au niveau européen et pas un repli national.
Ricci, à la question toute simple, est-ce que l'Europe est une passoire ou l'Europe une forteresse, que ce que vous seriez tenté de dire?
Bon, tous les États sont des forteresses. Donc, si l'Europe veut être un régime politique dans le monde, dans un certain sens, elle doit être une forteresse. Ça, on ne peut pas le nier d'un point de vue historique. Par contre, il faut aussi dire que, même si je partage la sensibilité de M. Lelouch à la dynamique structurelle d'immigration qui existe, qui est là, et qu'on ne peut pas empêcher, on n'arrive pas à l'empêcher seulement avec une renationalisation des politiques de contrôle des frontières. Car ce sont des forces structurelles qui sont là et d'une manière ou l'autre vont se déchaîner. Donc, il faut les gérer et il faut être aussi conscient que la structure démographique de l'Europe est une structure fragile en soi-même. L'Europe vieillisse, il manque, même s'il y a du chômage, il manque de la main-d'œuvre jeune dans certains secteurs. Donc,
avec des situations différentes d'un pays à l'autre.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir plus de coordination, plus de, d'intégration, d'échange, de partage entre les pays européens.
Nous allons faire un petit détour par la rédaction de notre partenaire courrier international, Jerry Philly. Bonjour. L'espace Schengen, c'est un espace de libre circulation, on l'a déjà dit, et lorsqu'on se trouve à l'intérieur, bien sûr, mais c'est aussi une frontière extérieure commune aux 26 pays. Semble-t-il de plus en plus difficile à franchir, mais c'est un débat, en tout cas, il faut la sécuriser. Et pour la sécuriser, cette frontière, il y a un grand business où sont impliqués tous les grands noms européens de la défense et de la sécurité.
Tout à fait, Daniel. En fait, donc un papier du Spiegel, le grand hebdomadaire de Hambourg, qui dit que l'avenir de la politique européenne des frontières est en marche depuis le 16 septembre 2014 vers 18h. Ce jour-là, en Méditerranée, à 85 000 nautiques au sud-ouest du port andalou d'Almeria, un navire fait route vers l'Espagne au départ du Maroc. Personne à son bord ne se doute que l'Union européenne a les yeux rivés sur l'embarcation. À 800 km d'altitude, c'est un satellite Radarsat 2 qui a repéré le bateau. Au siège de l'Agence européenne de gestion des frontières, Frontex, à Varsovie, l'information venue de l'espace déclenche une alerte. Les agents du Frontex informent la Guardia Civil espagnole qui dépêche sur place un navire, des gardes-côtes et un hélicoptère. 38 réfugiés sont bientôt récupérés et emmenés sur la terre ferme en Europe. C'était, Daniel, la première utilisation réussie des satellites depuis la mise en service, fin 2013, du dispositif de surveillance Eurosur, qui doit permettre à l'Union de mieux contrôler ses frontières. Alors, il ne s'agit non seulement des satellites, mais il y a aussi, histoire des drones, des robots, des détecteurs. En fait, la Commission a mobilisé plusieurs milliards d'euros depuis 2007 pour développer les technologies de sécurité, les programmes spatiaux.
Et Jerry, d'ailleurs, toute cette sophistication, ces satellites, ces drones et tous ces moyens d'observation électronique, on retrouve évidemment tous les grands noms de la défense et de la sécurité européenne.
Absolument, Daniel, nous avons des filières d'Airbus, nous avons Siemens, nous avons la Deutsche Post, c'est le poste de l'Allemagne. Nous avons aussi le fabricant de drones français SAGEM qui coordonne notamment avec la Commission européenne le projet Oparus qui a pour but de définir les conditions générales de l'utilisation des drones.
Ce qui pose tout de même un problème, car qui détermine la politique de sécurité de l'Union européenne, la sécurisation des frontières extérieures de Schengen?
Absolument, Daniel, il y a nombreux universitaires, des chercheurs dans les instituts, les ONG, et aussi des eurodéputés qui dénoncent le fait que la Commission européenne a confié sa politique de sécurité aux entreprises qui profitent le plus de sa mise en œuvre.
Un mot, Ettore Ricci, qui détermine, est-ce que les entreprises sont tendance à vendre des matériels de plus en plus sophistiqués, celles qui dominent un peu le jeu ou pas, de votre point de vue?
Bon, c'est pas ça le problème, je trouve qu'on a... il y a des entreprises partout, il y a des entreprises dans les microphones, il y a des entreprises dans les radios, donc...
C'est pas ça. Pierre Lelouch. Alors, la Commission européenne et l'Europe, l'Union européenne a créé Frontex. C'est un organisme qui est doté d'un petit budget, 85 millions d'euros. Il a été créé à l'époque où Antonio Vitorino.
Oui, bourré de satellites, de drones.
À l'époque où Antonio Vitorino
industriel.
Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas à votre point de vue? Vous êtes là pour défendre votre point de vue.
Monsieur, l'un des problèmes que nous avons, parce que moi, comme monsieur Vitorino, je suis un Européen convaincu. La question que nous avons, c'est que il n'y a pas de pilote dans l'avion et que l'avion est très faible. Frontex est très faible.
Alors est-ce qu'il faut
quand
un pilote dans l'avion?
Quand j'étais ministre de l'Europe, le gouvernement grec qui recevait 150 000 à l'époque déjà, il y a 7 ans, 150 000 clandestins arrêtés en Grèce par an, identifiés.
Alors il n'y a pas de pilote dans l'avion.
Demandez le secours de la marine française parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Aujourd'hui, on a heureusement commencé à rassembler un peu plus de moyens. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces moyens? Il y a eu, comme vous le savez, une discussion sur aller bombarder les trafiquants. On a écarté ça avec une résolution de l'ONU. Après, on s'est dit, on va sauver les gens en mer. Mais si on les ramène, on va juste augmenter l'appel d'air. Puisque les trafiquants, eux, ils sont garantis, quand ils vendent leurs billets, et ils le vendent très cher, de l'arrivée en sécurité en Europe grâce aux marines.
Alors la question, c'est que faire et qui?
Alors, que faire? Certains pays d'immigration importants, comme l'Australie par exemple, renvoient les bateaux sur leur point d'origine. Et la question va se poser de savoir si ces flux continuent, et ils vont continuer, si un jour ou l'autre,
Il faudra une décision du Conseil européen, parce que si la Commission elle apporte des solutions, mais il faut que les conseils, les États soient d'accord. Est-ce que oui ou non, on renvoie les bateaux vers les côtes libyennes et on crée en Afrique du Nord des zones de rétention pour savoir s'il y a de vrais demandeurs d'asile, et à ce moment-là on traite les demandes d'asile, ou bien si on a affaire à des réfugiés économiques et on peut pas. Alors, je comprends, le professeur disait, c'est vrai que l'Europe va manquer de bras, mais là on subit. On choisit pas. Quand on a des besoins économiques, on est en droit, dans une démocratie, avec le mandat du peuple, de choisir les immigrés en fonction des besoins de la société. C'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font des démocraties comme le Canada, comme l'Australie. Est-ce que nous, Européens, nous serions les seuls à être obligés de subir tout un tas de gens qui n'ont pas de formation, qui sont une charge pour notre économie, qu'au nom des principes, des grands principes des droits de l'homme, on va sauver, mais qu'ensuite on sera incapable de loger, regardez ce qui se passe en ce moment en France, ni d'employer. C'est quoi le destin de l'Europe ? De servir de débouché à des gouvernements mal dirigés qui se contentent de...
La question, c'est comment faire et quoi ? Est-ce que l'Europe repousser les navires qui accostent vers Lampedusa ?
Du point de vue de notre débat aujourd'hui, en tout cas dans ma famille politique, on est en train de réfléchir à toute une gamme de sujets. Ce qui est sûr, c'est que le maintien de certains États dans Schengen pose problème dès lors que les règles ne sont pas appliquées. Autrement dit, si je confie mes clés à mon voisin et que mon voisin ne m'assure pas que la porte est défendue, il y aura un problème pour le maintien
du
voisin.
Alors, est-ce que c'est une question de formation, justement, des voisins qui contrôlent les frontières ? Ça peut être aussi l'approche.
Certains, écoutez, par exemple, dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie, nous, Français,
qui ne sont pas membres de l'espace Schengen.
Mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais aux affaires, j'avais demandé... Et le gouvernement m'avait suivi à ce qu'on ne fasse pas rentrer la Roumanie et la Bulgarie, tout simplement parce que l'état de droit dans ces pays n'est pas garanti. On s'aperçoit aujourd'hui que nombre de réseaux terroristes utilisent la frontière bulgare pour faire passer des gens à l'intérieur de l'Union européenne.
Qui n'est pas membre de l'espace Schengen, entre parenthèses.
Qui n'est toujours pas. Encore une fois, parce que la France, à l'époque, l'avait exigé, suivi par d'autres pays. Et, comme vous le savez peut-être, il y a des juges et des policiers français, allemands, en ce moment, à Sofia, à Bucarest, parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Bon. Après, est-ce que la Grèce peut rester dans le Schengen si la frontière n'est pas tenue? C'est une vraie question que je pose.
Comment un pays membre de l'Union européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, n'est pas un état de droit? C'est un peu excessif, non?
J'ai dit que l'état de droit n'est pas garanti, et chaque année, M. Vittorino peut en témoigner, il y a un rapport de la Commission sur le suivi de l'état de droit dans ces pays. Tout simplement parce qu'on a fait rentrer ces pays hâtivement, pour des raisons à l'époque géopolitiques, en ayant conscience que certaines cases n'étaient pas cochées, notamment la gestion des minorités, je pense aux Roms, qui sont exportés par le gouvernement roumain, malgré tout l'argent que la Commission déverse sur la Roumanie, je pense à l'état de droit où il y a des réseaux mafieux connus de tous. Pourtant, on a fait rentrer ces pays avant qu'ils ne soient prêts. De même, on a fait rentrer la Grèce dans la zone euro et dans la zone Schengen alors qu'elle n'était pas prête. Et nous en payons aujourd'hui le prix. Donc moi, ce que je dis, quand je dis qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, j'en mets pas la responsabilité à la Commission, je dis que les États doivent prendre la responsabilité. Dans le système européen, c'est trop facile d'aller accuser la Commission quand les États ne prêtent pas la responsabilité. Si on fait rentrer un pays dans la zone euro ou dans la zone Schengen qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité, qui est de tenir ses frontières, les Grecs ne tiennent pas leurs frontières. C'est pour ça que aujourd'hui, avec la Libye, figurez-vous, la Grèce est l'un des deux principaux ports d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. C'est un fait.
On est d'accord sur le constat, Antonio Vittorino. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, dit Pierre Lelouch. Est-ce que ce pilote doit être un pilote européen ou est-ce qu'il faut renationaliser? Il faut de nouveau 26 petits pilotes. Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace?
Non, je trouve qu'il faut trouver un équilibre parce que chaque État membre continue à être le seul responsable du contrôle de sa partie des frontières extérieures. Et là, je peux être d'accord avec Monsieur le Ministre en disant qu'il y a des pays qui ont donné déjà des preuves qu'ils ont des défaillances. Et le système ne peut pas fonctionner avec des maillons faibles dans la chaîne. Voilà. Et c'est pourquoi on a déployé des gardes frontières des autres États membres vers la Grèce à travers l'agence Frontex, le moment où on a identifié que la Grèce était le maillon faible. Et ça, c'est une preuve de solidarité, d'ailleurs. Une solidarité peut-être qui va outre ce qui était exigeable, dans le sens que la Grèce a reçu beaucoup d'appui financier pendant plusieurs années pour renforcer leur contrôle aux frontières et pour améliorer les conditions de réception des réfugiés, et elle ne l'a pas fait d'une façon suffisamment acceptable.
Donc l'Europe n'est pas assez coercitive.
De toute façon, il faut ajouter, dans mon avis personnel, que le rétablissement des contrôles aux frontières, ce serait la négation d'une telle capacité de solidarité. Et donc, on serait plutôt vulnérable que moins vulnérable si on rétablissait seulement un enfermement de chacun.
Ça, c'est le bout de la route. Si on n'arrive pas à trouver des solutions, moi, je ne suis pas favorable au retour aux frontières nationales, sauf si on n'a pas
alors réussi à trouver la solution. C'est le centre du débat.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer
le système?
Absolument. Je pense que d'abord, il faut retrouver une unité entre les pays de transit et les pays de destination. Voilà. Et donc ça, il faut qu'il y ait une vraie explication de texte, par exemple entre la France et l'Italie sur ces sujets. Excusez-moi, il y a un léger l'Italie, l'Allemagne.
Là,
il y a un vrai problème. Deuxièmement, pour la Grèce, je me pose vraiment la question de savoir si ce pays peut rester dans Schengen, sachant qu'ils sont incapables de contrôler leurs frontières extérieures, notamment dans les îles. Il y a le rôle de la Turquie qui est un vrai problème. Parce qu'on ne peut pas, comprenez, être candidat à l'Union européenne, comme c'est le cas de la Turquie, laisser passer les djihadistes en masse en direction de la Syrie, c'est ce qu'ils font, et en même temps laisser passer dans l'autre sens des cohortes d'immigrés clandestins en direction de la zone Schengen. C'est pourtant ce que fait la Turquie.
C'est-à-dire le maintien de la Grèce. Qui recule d'année en année.
Oui, c'est exact. Enfin, le maintien de la Grèce dans Schengen, pour moi, c'est un problème. Donc, si on n'arrive pas à gérer ces problèmes très sérieusement dans un délai raisonnable, si dans un an, on n'a pas réglé le problème de la Grèce, le problème du maintien de la Grèce se posera.
La vraie question, c'est comment résoudre et comment régler ce problème. Est-ce qu'on le règle en sortant la Grèce de la zone Schengen, première possibilité, ou est-ce qu'on s'en sort, par exemple, en renforçant les contrôles européens? Il n'existe pas, pour Frontex, un corps de garde de frontières européennes.
Si, il existe, mais c'est insuffisant parce que c'est cher.
Est-ce qu'il faut renforcer cela, par exemple?
De mon avis, il faut renforcer non seulement l'appui qui est donné par le déploiement des gardes frontières d'autres États membres dans le cadre de Frontex, mais il faut aussi être plus exigeant sur la qualité des gardes frontières grecs eux-mêmes.
Bien sûr. Qui se contentent aujourd'hui de ramasser les gens et de les envoyer en direction de l'Est, c'est-à-dire vers les frontières, vers l'Allemagne et vers la France.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Anthony Vizetorino, vous devez nous quitter car vous avez un avion à prendre. On reste avec Pierre Lelouch qui est arrivé un petit peu en retard, avec Ettore Rechi. En tout cas, merci d'avoir participé au moins partiellement à ce débat. Ettore Rechi, un point de vue qui n'est pas celui d'un homme politique mais d'un universitaire un petit peu en dehors. Selon vous, est-ce qu'il faut renationaliser un peu ce contrôle des frontières qui évidemment remettrait l'idée même de Schengen en cause, ou est-ce qu'il faut donner plus de moyens, une compétence européenne plus grande, que ce soit la Commission, soit Frontex, enfin, c'est à définir, de façon à ce qu'il y ait, évidemment, une vraie frontière européenne gardée et sécurisée par un corps européen. Est-ce que c'est une idée qui, selon vous, est intéressante à creuser?
Un des péchés originaux de la construction européenne, déjà dans les années 50, c'était d'écarter l'idée d'avoir une armée commune en Europe. Donc, les plans d'intégration européenne étaient commencés avec la communauté européenne de défense qui a été rejetée, et après on a commencé par l'économie. Mais on est arrivé à un moment que cette idée d'avoir une armée commune, une armée européenne, remonte en puissance, et cette question-là, c'est une question qui est liée au contrôle des frontières. Donc je trouve que avoir une solidarité vraie dans une formation politique étatique, finalement, comme l'est l'Union européenne, exige d'avoir des forces de défense et des contrôles des frontières communes.
Ce que vient de dire Ettore Rechi, c'est que pour sortir de ce problème qui en est un et tout le monde en est conscient autour de ça, il faut plus d'Europe, Pierre Lelouch.
Et moi, j'ai tendance à dire au professeur Rechi, parole. Vous parlez à quelqu'un, monsieur le professeur, qui a consacré, je ne sais pas, au moins 3 décennies de sa vie à travailler sur les questions de défense européenne. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Quand je m'occupe du Mali et que je vais voir la situation dans Mali, où sont les forces européennes? Dans le Sahel? Où est l'Europe? Nous, Français, dans ces interventions, nous sommes absolument seuls. Quand de temps en temps nous avons un avion danois ou un bout d'avion allemand ou autre, quand on a 200 soldats suédois, on crie au miracle. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de défense européenne. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'industrie de défense européenne.
Mais, et est-ce qu'il ne faut pas commencer par
monsieur le journaliste,
un corps de garde-frontière.
Alors, maintenant, si on m'explique que la solution à cette énorme montagne que représente l'immigration, le défi de l'immigration pour l'Europe dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, c'est de fabriquer des gardes-frontières communs, je dis banco, faisons. Mais où est la volonté politique chez nos voisins? Je ne la vois pas. Regardez les budgets de défense de nos voisins. Regardez. Où est l'argent? La plupart de nos partenaires ont des budgets de défense inférieurs à 1% du PIB. Nous, en France, on se bat, on est à 1,4%. Et on a les plus grandes difficultés. Pourquoi? Parce que tout le monde est en crise, il y a d'autres demandes. La défense européenne, c'est malheureusement trop souvent un slogan et très peu de choses derrière. Nous en sommes, nous, Français, réduits à déployer l'armée française sur le sol français parce que, justement, on n'a pas de garde nationale. Et vous me dites, pourtant une garde nationale au niveau de l'Union européenne. Très bien, mais avec quels moyens? Et est-ce qu'on peut à ce moment-là envisager de les sortir des déficits de Maastricht? Autant de débats que nous devrions ouvrir. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Moi, j'ai rien contre l'idée de booster Frontex, de fabriquer une garde nationale européenne. Mais dans ce cas-là, il faut y mettre des moyens, il faut le budgéter. Il n'y a pas un centime de prévu dans ce domaine, dans le budget de l'Europe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Et que, vous savez,
la vérité... Alors, quelle est la solution? C'est la renationalisation.
Autour de la table du Conseil, vous avez 28 pays. Quand vous... Une fois qu'on a fini de parler entre Italiens, Français, Espagnols, parce que nous, on vit ça au quotidien, parce qu'on est les pays les plus exposés. Si vous regardez vers le nord de l'Europe, les pays ne se sentent pas concernés.
La Donc, Suède est quand même le pays qui, par rapport à son nombre d'habitants, a le plus grand nombre...
Alors, ça commence un peu en Scandinavie, parce que l'intégration en plus se passe très mal, et on voit un changement de regard. Mais je peux vous assurer que, d'un bout à l'autre de l'Europe, la perception du problème n'est pas la même.
Bien
Donc il y a un vrai travail pédagogique.
Mais c'est en train de changer. En même temps, la Suède est aujourd'hui un pays où il y a beaucoup d'émigrés et qui accorde beaucoup de droits
d'asile. C'est en train de changer aussi un peu au Danemark.
De demandes d'asile politique.
Mais je vous assure que c'est pas évident, parce que cet argent-là, il va falloir quand même le trouver. Il va falloir avoir la volonté politique de le faire. L'expérience montre que c'est très compliqué à faire. Et c'est bien plus simple de dire Schengen est une belle idée, c'est un symbole, il faut maintenir Schengen. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que le navire prend l'eau de toutes parts.
Alors Pierre Lellouche, dans le programme à l'époque de l'UMP pour les élections européennes de 2014, il y avait cette petite phrase, sans progrès sérieux dans les 12 mois, nous pourrions suspendre la participation de la France aux accords de Schengen. J'imagine que vous avez contribué à cette phrase.
Oh, pas que moi.
Pas que moi, non, mais vous avez contribué.
Je pense que ça fait consensus dans notre famille.
Mais est-ce qu'on peut sortir de Schengen sans sortir de l'Europe complètement,
bien
de
sûr,
l'Union européenne?
Bien sûr, on peut aussi sortir la Grèce de l'Union monétaire, de la monnaie, sans que la Grèce quitte l'Union européenne. On peut faire comme la Grande-Bretagne, être dans l'Union européenne sans être dans Schengen.
Mais est-ce qu'on peut, quand on commence à détricoter, est-ce qu'on détricote pas jusqu'à se retrouver tout nu? C'est une vraie question.
Est une vraie question, monsieur, c'est est-ce qu'on peut continuer avec un système qui ne fonctionne plus?
Alors,
et
comment l'améliorer?
Combien de temps pensez-vous avoir le soutien des peuples à une machine bureaucratique qui
D'accord.
ne fonctionne plus, ni
Pierre
sur
Lelouch.
La monnaie,
D'accord.
ni sur l'immigration, ni sur la politique étrangère, ni sur la défense, ni sur le chômage.
Pierre Lelouch,
c'est la
D'accord.
question que je vous pose. Donc
alors,
moi, comme je suis européen, j'aimerais que l'on traite les problèmes un par un plutôt que l'on dise oh, surtout on touche à rien. Cette méthode-là est en train d'emmener l'Europe dans le mur. Permettez-moi de vous le dire, et je le dis avec beaucoup de gravité. Je comprends ceux qui disent attention, c'est très important l'Europe, ne tricotons pas, ne renationalisons
Pierre
pas.
Pierre Lelouch, on arrive au terme de cette émission et je n'ai toujours pas compris si dans votre solution il faut renationaliser et donc moins d'Europe, ou si la solution passe par un renforcement d'un contrôle européen
et
changer effectivement. Vous avez dit que la perception de l'immigration change entre le Nord et le Sud, et la Suède est un bon exemple. On peut imaginer quand même qu'il y ait des gardes frontières communs. Par exemple, l'Europe a bien fait l'euro, le marché unique, etc. Donc l'Europe, elle n'est pas paralysée, elle peut faire aussi des choses, s'il y a un peu de volonté politique, même si je suis d'accord pour dire que cette volonté politique, elle n'est pas réelle. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est quelle est votre solution? Est-ce qu'il faut renationaliser, refaire des frontières nationales, ou vous, au contraire, jouez la carte européenne.
Je vous donne rendez-vous pour dans les semaines qui viennent, parce que nous allons faire une convention très sérieuse sur le sujet. Je vais vous donner aujourd'hui ma position personnelle. Je crois qu'il faut procéder par étapes. Donc il faut donner une chance au système, demander à nos partenaires de revoir la copie. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le système par rapport au problème nouveau que nous avons avec cet énorme problème démographique que nous avons pour des décennies en face de nous? Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce que des États peuvent ou pas rester dans le système Schengen s'ils ne sont pas en mesure de tenir les frontières des voisins? Et qu'est-ce qu'on peut renforcer? Frontex, garde frontières européennes.
Un renforcement du système
informatique
Schengen.
Et si on n'arrive pas à améliorer de façon crédible le système au bout d'une année de négociation, si on n'arrive pas à quelque chose de crédible, alors il faut poser le problème, en effet, de la remise de frontières nationales, en tout cas pour nous, pour ce qui nous concerne, parce que je vais terminer là-dessus. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte, les chiffres sont têtus, vous savez. Nous avons 200 000 entrées légales par an, dont la moitié regroupement familial. 200 000 entrées légales. Nous avons 70 000 demandeurs d'asile en plus, et probablement autant de clandestins. Donc on parle au minimum de 350 000 entrées par an en France. C'est pas rien dans un pays où il y a 5 millions et demi, 6 millions de gens qui ne travaillent pas. C'est pas rien. Et où il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'intégration. Donc je dis attention. Il faut faire très attention à cette politique d'immigration. Nous devons la remettre à plat. Il faut remettre à plat la politique du droit d'asile et faire en sorte qu'elle soit coordonnée d'un État à un autre. Mais bon, on ne peut pas continuer à avoir des gens qui rentrent en masse en Italie, qui sont ensuite transférés en France, sans que l'asile ne soit réglé. Et qu'on sert en véritable centre de triage et qu'on le fasse sous le métro parisien. Ça, c'est pas acceptable, parce que ça pose des problèmes humains terribles, des problèmes sanitaires terribles. Donc je souhaiterais qu'on regarde le problème de façon très sérieuse, parce que ça va pas se régler tout seul.
On a compris, on laisse une chance à l'Europe, et puis si ça va pas, il faudra réfléchir à des solutions plus nationales. Je résume votre pensée.
Exactement.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Mathieu Salabert, avec la complicité de Juliette Lequen. Pour réécouter cette émission RFI.fr ou les applis mobiles et gratuites de RFI, sur la page de l'émission, plein d'infos vous attendent, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, où que vous soyez dans l'espace Schengen ou en dehors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.